جورني سبيسيال
تقريبا باش نمشيو نتواصلوا شويه خاطر باش نحكيوا على العالم زاده شنو اللي فيه ضيوفي نرحب بهم زوج سيد انيس الرويسي اسوسي دو لواد مختص في الشان السياحي لانه ساهم في استراتيجيه الوطنيه للسياحه مرحبا بك انيس
مرحبا
شكرا لك على الحضور وكيف كيف تدا حاضر معنا ضيفنا اللي باش نحكيوا معاه على السياسات العالميه اكثر في السياحه اللي هو اوليفي بوتي ماناجينغ دايركتور ب ان اكستنسيو توريزم كولتور مرحبا بك
Bienvenue
parmi nous. Alors, on va commencer justement avec vous. Quand on parle de tourisme durable, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on parle d'innovation touristique d'une manière générale. Et avec la crise sanitaire, on était obligé, ou les entreprises touristiques et les institutions touristiques étaient obligées de s'adapter avec la crise et la situation très compliquée depuis pratiquement une année et demie. Et on a observer l'explosion de nouvelles tendances touristiques, si j'ose dire, liées aux nouvelles technologies, la data, donc tourisme digital, ce qui m'a surpris aussi, ce qu'on appelle le télétravel ou la flexcations. Tout ça, en fait, ça résume un petit peu une vraie révolution touristique. À quel point, justement, on peut parler d'une révolution touristique aujourd'hui et comment ça va se traduire dans les années à venir ?
Alors vous avez raison, le secteur du tourisme est un secteur qui connaît beaucoup d'évolutions et qui met en place pas mal d'innovations ces temps-ci. Longtemps, il y a beaucoup d'inertie dans le secteur, hein, parce que d'une part, il y a l'inertie des clientèles, les évolutions des modes de consommation dans le secteur prennent du temps à changer, mais ils changent et il y a parfois des aspects de rupture et aujourd'hui on est dans une de ces ruptures. Le deuxième facteur d'inertie, c'est que lorsqu'on parle de tourisme et notamment d'hôtellerie, il y a une inertie qui est très forte et qui est propre aux besoins en termes de capitaux qu'on injecte pour construire un hôtel. Et une fois qu'on a construit un hôtel de 200 chambres, on va le faire vivre pendant quelques années avant de le rénover, etc. Donc c'est quelque chose qui a été parfois un petit peu sclérosant dans le secteur. Et cette crise a obligé à repenser un certain nombre de vecteurs poussés par la demande et poussés par le contexte de crise. J'entendais Monsieur Frelin qui parlait beaucoup effectivement du développement durable. C'est la RSE en général, c'est un gros facteur d'innovation et il y a des champs d'exploration dans la dimension environnementale, dans la dimension sociale qui sont vraiment à pousser et aujourd'hui on sent qu'on rentre dans ces dimensions-là. Je vous entendais également beaucoup parler de la dimension expérientielle dans le secteur du tourisme, c'est juste déterminant. Et je vois partout Express FM créateur de valeur, aujourd'hui c'est bien l'expérience qui est créatrice de valeur. C'est parce qu'on va enrichir le produit au-delà d'une simple demande en termes de balnéaire, qu'on va conjuguer le balnéaire avec de la visite de site, avec de l'artisanat, avec du terroir, avec du sport, avec du bien-être. On peut adosser tout un tas de choses et ça, soit on peut le recentraliser dans l'hôtel et on va créer des produits qui vont être sur mesure pour aller chercher, je vais prendre quelques exemples, une expertise dans le secteur du sport et de l'hôtellerie. Vous avez un produit qui a ouvert sur la Côte d'Azur qui s'appelle Lily of the Valley, qui est une des références. Dans le bien-être et l'hôtellerie, vous avez le Sha Wellness and Spa en Espagne. Dans les spécialistes de l'organisation de séminaires, vous avez Château Forme. Donc on retrouve des produits qui sont de plus en plus segmentés et ça effectivement c'est une tendance que l'on va avoir qui est très forte. En matière d'innovation, il y a une tendance également extrêmement lourde qui est à l'œuvre et qui va être à mon avis encore renforcée par la crise du Covid, c'est tout ce qui est lifestyle, le contact avec les autres, la porosité entre le client international et le marché local. Comment est-ce que je les fais se rencontrer ? Il n'y a rien de mieux que dans un bar, dans un restaurant, dans une activité. Et cette demande de lifestyle qui va imposer aux établissements hôteliers de personnaliser leurs produits va nécessiter de se poser la question, mes clients de demain, c'est qui ? Comment est-ce que je vais les appréhender ? Comment est-ce que je vais aller les chercher ? Et comment est-ce que j'aménage mon offre pour répondre à ces besoins-là.
Mais cette opération est-elle évidente de cibler sa clientèle de la sorte ?
Alors, sur beaucoup de marchés et largement au-delà du secteur du tourisme, se dire à qui je m'adresse et à qui je propose mon produit, c'est souvent un basique.
Mais je vous ai posé la question justement parce que le secteur touristique, il est un peu différent, vous le savez très bien, par rapport aux autres secteurs. On a connu à la fin des années 30 l'explosion du tourisme de masse, donc c'était pratiquement la règle. Là, la donne, elle commence à changer. Donc c'est pour ça justement la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut parler de niche touristique aujourd'hui? Est-ce que ça peut marcher?
Oui, et j'ai échangé il y a peu de temps avec Reda Fassé, qui est directeur du développement pour Accor sur l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Et Reda me disait que si vous prenez un groupe comme Accor, aujourd'hui, alors j'ai un peu perdu le fil, je ne sais plus à combien ils sont, mais il doit avoir une 25 ou 30 marques. Et ces 25 ou 30 marques, c'est pour couvrir toutes les possibilités de clients et aller les séduire. Mmh. Et on va aller travailler dans du super économique, avec une offre où on retrouve les basiques bien faits. On va travailler dans de l'hyper luxe. On va travailler sur des clientèles sur le segment milieu de gamme. Vous êtes capable de retrouver aussi bien Mama Shelter que vous allez retrouver Novotel. Et donc on va s'adresser à des clientèles et des typologies de clientèles qui sont différentes. La particularité qu'on a dans ce secteur de l'hôtellerie et du tourisme, c'est qu'on ne s'adresse pas toujours à des clientèles différentes, on s'adresse à des moments de consommation différents. Mmh. Et un même client est capable d'aller consommer du Airbnb en vacances avec des amis, de l'hôtellerie super économique parce qu'il est en transit pour partir en vacances, de l'hôtellerie de luxe en couple ou dans un cadre business, et donc du nouveau hôtel ou du Mama Shelter parce que de temps en temps il a envie de faire la fête après une bonne journée de travail et il va aller au Mama Shelter, et puis de temps en temps il a juste envie d'être un peu plus calme pour préparer sa réunion de demain et il va avoir un service nickel et il va aller chez Novotel. Donc le moment de consommation est aussi déterminant que la typologie de clientèle que vous allez avoir. Donc plus vous allez segmenter votre proposition de produits à vos clients, et plus vous allez leur apporter une vraie valeur ajoutée en fonction de ce qu'ils ont envie.
Donc réellement, on parle d'expérience et de moment.
Exactement.
C'est ça en fait, si je peux traduire. Anis,
peut-être réagir,
oui, bien
et
sûr.
Faire le lien avec la Tunisie. En fait, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vient de dire Olivier, c'est que dans le tourisme, l'innovation n'est pas nécessairement technologique. Mm-hmm. Elle est technologique, mais elle n'est pas que technologique. Elle est beaucoup donc d'un point de vue organisationnel. Comment est-ce qu'on organise le secteur du tourisme dans un pays et comment est-ce qu'on met cette innovation au service de l'offre, de l'innovation au niveau de l'offre touristique, au niveau des services touristiques, au niveau de l'expérience que vivent les touristes de par le monde.
C'est bien de le préciser parce que l'innovation généralement est liée à technologie.
C'est pour ça. Mais elle est aussi technologique, j'en parlerai.
Ouais.
C'est-à-dire que quand je fais le parallèle en Tunisie, c'est qu'en Tunisie, sur les dernières années, comme vous le savez, et tous vos invités l'ont dit tout au long de la journée, la Tunisie a connu de nombreuses crises qui ont fortement impacté le secteur du tourisme. Et donc, peut-être qu'on en parlera, mais on est vraiment dans une double crise qui est à la fois conjoncturelle et structurelle. Mmh. Le conjoncturel, les opérateurs touristiques ont besoin de se refinancer, donc il y a une problématique de cash très importante. Sur le structurel, il y a un besoin, et ça a été... Moi, j'ai travaillé sur la stratégie nationale du tourisme en 2014 déjà, je rentrais de l'étranger, et j'ai retravaillé sur les assises nationales en 2016 avec la FTH, etc. Et c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. C'est-à-dire que le modèle historique du tourisme de masse tunisien n'est plus suffisant. Et il faut faire attention, c'est-à-dire quand on parle de modèle historique qui n'est plus suffisant ou qui a à faire évoluer, le tourisme tunisien restera fortement basé sur le tourisme balnéaire, et sûrement balnéaire de masse. Mais il va falloir le faire évoluer parce que même quand on parle de diversification de l'offre, on parle aussi de diversification de l'offre balnéaire en tant que telle. Et faire vivre donc justement une nouvelle offre de tourisme durable, de tourisme alternatif, de diversification des parcours touristiques, etc., est une absolue nécessité. Et en parallèle, il va falloir aussi mettre donc l'innovation organisationnelle et que moi j'appelle souvent la professionnalisation des acteurs du secteur au service justement d'une transformation du secteur. Et il va y avoir besoin que les opérateurs tunisiens pensent l'avenir en se transformant, justement leur vision du service au sein de leurs unités hôtelières, au sein de leurs unités de restauration, etc., etc. C'est-à-dire que l'innovation, encore une fois, doit venir justement de comment est-ce qu'on traite notre offre, comment on structure notre offre, comment on structure notre offre de service, etc. Par contre, quand on parle d'innovation en termes de produits, moi je travaille avec un client qui, et je vais donner un exemple, je voulais en parler, qui est très parlant à mon sens, et ça touche aussi bien la diversification que l'innovation, et même technologique. Moi j'ai un client qui réfléchit à investir dans le sud, sur des parcours touristiques, de l'événementiel du parcours touristique et de l'événementiel autour du cinétourisme. Et je vais en parler. Je sais que la GIZ travaille sur des parcours thématiques. Aujourd'hui, on a vraiment une mine d'or dans le sud de la Tunisie. On a plusieurs sites liés au film, à la saga Star Wars, aux patients anglais, etc.
Inexploités, malheureusement.
Totalement inexploités depuis 40 ans. Oui. Juste pour vous sachiez, aujourd'hui, si on parle ne serait-ce que de Star Wars, c'est 400 millions de fans de par le monde, mais de réels fans qui se déplacent, qui consomment. C'est des fans, on a à peu près une communauté de 29 millions d'abonnés Facebook actifs autour de Star Wars, 21 millions sur Twitter. Ces gens-là, qu'on regarde, et vous avez parlé des problèmes de dépenses moyennes des touristes tunisiens, si on regarde cette clientèle-là et ces visiteurs-là, ils dépensent aux alentours de 3 000 euros par visite. C'est des gens qui suivent des parcours autour de leurs films et séries cultes préférées et qui ne demandent qu'à venir en Tunisie. Et donc ces investisseurs-là ont pensé à créer, et c'est pour ça que je parle à l'innovation, je fais le lien avec l'innovation, on m'a fait penser à ça, c'est qu'ils pensent à créer ce parcours touristique avec de la réalité augmentée,
oui.
avec de l'événementiel innovant, comme on le voit à l'étranger, etc. C'est-à-dire que la technologie peut être aussi au service de l'évolution du secteur touristique. Mais nous concernant, et Olivier parlait d'inertie, c'est une réalité, elle est pas aussi, c'est pas aussi impactant que sur d'autres secteurs d'activité. Mmh. C'est vraiment à la marge pour faire évoluer une offre de services et de produits. Donc voilà ce que je voulais dire pour le lien par rapport à l'innovation, ce que tu disais, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu disais, Olivier. Mmh.
Vous avez cité plusieurs points, en fait, mais je veux revenir à Olivier Petit. Par rapport à ce lien entre innovation et forcément technologique ou pas, donc ce n'est pas forcément technologique, mais il y a un autre point, en fait, qui m'intrigue un petit peu, par rapport à la liaison ou le lien entre innovation et authenticité. Et j'ai vu plusieurs observateurs qui mentionnent cette remarque-là et la peur de perdre le charme du pays, si je vais parler de la Tunisie par exemple, et de perdre l'authenticité si on cherche forcément l'innovation. Est-ce que c'est vrai ou à quel point est-ce que ça peut être vrai?
C'est paradoxal, mais je vais pas refaire un cours sur l'historique du tourisme, mais en gros, pendant plusieurs décennies, on a industrialisé les produits. Mmh. En se disant, il faut que j'aille en Tunisie, aux États-Unis, à Paris ou à Hong Kong, j'ai toujours le même produit. Je suis dans une logique de réassurance. Et donc, j'homogénéise mon produit. Aujourd'hui, on est dans une autre logique qui est celle d'industrialiser les process. J'ai la même qualité de service où que j'aille. Par contre, je personnalise le produit. Et je vais m'approprier les terroirs locaux. Je vais, lorsqu'on parle de développement durable, on va parler de circuit court en termes d'alimentation. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de manger un produit, une saucisse de Toulouse en
Tunisie. À Tataouine,
ça n'a pas d'intérêt. Il y a tout un tas de produits locaux, quand on est à Tabarka, quand on est à Tataouine, qu'il faut pouvoir valoriser. Ça, on revient dans cette notion d'expérience. Et donc, il faut bien se dire que l'authenticité et le terroir sont des valeurs ajoutées à la consommation du produit touristique. Et tous les produits, je citais Novotel. Novotel, on a parfois l'image d'une chaîne qui est ultra standardisée, qui ne bouge pas. Et on se dit, demain, Novotel, c'est terminé. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et quand vous regardez l'évolution des produits Novotel sur ces dernières années, par exemple, vous verrez qu'aujourd'hui, le lobby d'un Novotel d'un pays à un autre n'est plus le même. L'offre de restauration d'un site à un autre n'est plus la même. Parce qu'on se réapproprie ces terroirs, cette authenticité. Donc, on est de plus en plus, grâce à la technologie, c'est parce que il y a 20 ans, si je devais partir à Dakar, à quoi ressemblait le produit qui n'avait pas de nom, pas un nom international, mm-hmm. pas une marque, j'en avais aucune idée. Aujourd'hui, je sais à quoi va ressembler une chambre d'hôte au fin fond de la Casamance grâce à Internet. J'aurai les avis clients. Donc, je suis libéré de cette question du risque produit que je peux avoir. Mmh. Et du coup, je vais essayer de comprendre quelle est la valeur ajoutée et la personnalité du produit que je vais avoir en face. Mmh. Donc, c'est une opportunité vraiment formidable pour développer justement ce caractère authentique.
François-Emmanuel Froling.
Oui.
Non, j'aimerais d'une manière prendre qu'est-ce que Monsieur Olivier a dit. Je crois que c'est vraiment, je dirais, une ouverture du tourisme, de flux de visiteurs qui permettent aux visiteurs pas seulement de rester dans une destination, mais d'avoir vraiment la possibilité, selon son propre intérêt, à se déplacer, à découvrir une autre Tunisie, je dirais, peut-être aussi une Tunisie plus authentique, oui, qui met en valeur les richesses de ce pays. Et j'aimerais aussi rebondir sur ce point sur le signe tourisme, oui, parce que ça, c'est exactement un peu l'approche que nous avons développée au sein de notre projet promotion du tourisme durable. Parce qu'on a vu, OK, comment est-ce qu'on peut mettre en valeur, ou comment est-ce qu'on peut commencer avec la diversification de l'offre touristique, oui. Et on a développé quelques, je dirais, lignes de produits, oui. D'une manière, on travaille sur les lignes de produits culinaires, tourisme en plein air, d'aventure et tourisme culturel, oui, clairement. Et on a dit aussi au sein de notre projet, OK, ça c'est vraiment où on se va concentrer sur ces trois lignes de produits. Parce que sinon, on avait aussi déjà écouté tourisme de santé, tourisme de bien-être, tourisme de
bien-être. On va se perdre.
Plusieurs formats de tourisme. Mm-hmm. Et spécialement pour la thématique cinématographique, c'est d'une manière, et ça c'est super que vous avez dit, Nice, c'est vraiment il y a un fort potentiel pour les ciné-touristes. Mm-hmm. Oui, il y a beaucoup de personnes qui cherchent vraiment ces expériences. Mais pour nous, c'était aussi une manière de rendre visible, je dirais, ou de développer des petits micro-destinations qui sont autour d'une thématique spéciale. Oui. Si on prend les sites de tournage, bien sûr, Star Wars est le plus connu. Mm-hmm. Mais il y a aussi des films de Monty Python, Indiana Jones, etc. Et notre approche, je ne vais pas entrer dans le détail parce que c'est ma collègue cet après-midi qui va parler de ça. Mais c'est vraiment de voir, et ce sont des sagas connues dans toute l'Europe, dans tout le monde. Mm-hmm. Et ça permet aussi d'avoir une affectation, je dirais, pour les touristes, oui. Ils écoutent seulement, Indiana Jones, je connais ça, j'ai une affectation avec film, pourquoi pas visiter ça. Mm-hmm. Et là, je rentre encore une fois dans la thématique de visibilité. Il faut rendre tous ces atouts de la Tunisie, tous ces unique selling points visibles pour le touriste, que le touriste sache, il y a quelque chose peut-être à une heure de mon hôtel, je pourrais aller visiter ça. Et lui donner aussi les services qui lui permettent à visiter ça.
Et c'est les nouvelles technologies qui vont aider à ça, en fait, non?
D'une manière, c'est les nouvelles technologies, bien sûr. Contribuer. Oui, mais on pourrait dire aussi que ce sont les technologies classiques.
Exactement.
Oui, un petit brochure dans un hôtel, un petit agence qui dit, OK, non, j'offre ça.
Pour ne pas se compliquer la vie.
Ça, c'est clair.
Peut-être si je peux, tu parlais justement de circuits courts. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une montée, alors une tendance qui se dégage post-Covid, c'est la montée de la volonté de tourisme expérientiel. Et c'est donc vivre justement, quand on se déplace, vivre l'expérience du pays qu'on visite. Vous avez reçu tout à l'heure Sifaouz Idrissi sur le projet HDI. HDI, justement, c'est un projet qui est développé dans Tabarka, mais qui est vraiment fait pour s'insérer totalement dans la région. Et donc, il y a une nécessité justement de renforcer la chaîne de valeur artisanale. Il y a une obligation de travailler sur justement la restauration locale, etc. Pour que faire en sorte que les visiteurs qui viennent pour visiter ce gros projet, qui viendront, comme il l'a dit, d'Algérie, de Tunisie et d'Europe, puissent vivre justement l'expérience de la région qu'ils visitent. Quand on va à Tabarka, on ne va pas à Tozeur. Et ça, c'est important. Et ce genre d'innovation en termes d'approche, justement, comment est-ce qu'on prend le tourisme tunisien, comment est-ce qu'on travaille l'offre touristique tunisienne, est essentiel parce que demain, comme je disais, le tourisme balnéaire restera, mais on va devoir construire autour. Et je crois que c'est toi, José, qui disais tout à l'heure qu'il va falloir justement proposer aux touristes toute une animation, tous des services autour de l'hôtel qui viennent visiter. Le all-inclusive, malheureusement, sur les dernières années, a essayé à limiter la sortie des touristes des hôtels, mais il va falloir justement faire en sorte que le tourisme redistribue sur l'ensemble des secteurs de l'économie tunisienne. Et il est absolument nécessaire de créer ces chaînes de valeur, de renforcer ces chaînes de valeur qui font pas pleinement partie du tourisme et qui viennent compléter cette offre touristique historique de Tunisie.
Il faut mettre en valeur, en quelque sorte, il faut mettre à niveau tout l'écosystème.
Exactement.
En fait, pour que le projet réussisse.
Et seulement un petit ajout, oui, parce que je crois que cet service annexe, pas seulement limité à l'hébergement où les touristes dorment, mais aussi sur les sites culturels, enfin. Si on visite aujourd'hui Douga, c'est superbe, c'est un site archéologique exceptionnel. Oui, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Mais si je vais y me déplacer pour visiter, ça c'est mon but de déplacement, c'est vraiment de visiter Douala, ou c'est après avoir à manger quelque chose à l'entour, il y a un petit restaurant là-bas, ça marche super, mais peut-être il y a aussi des autres services pour passer vraiment une journée dans cette destination, oui, et dire assez clair, oui, et dépenser d'argent que les personnes qui habitent dans la... dans la destination, dans cette micro-destination, peuvent profiter de ça.
Exactement. Quand on est arrivé à la dernière fois, si Mohamed Al-Shabani a une idée ou une idée, vous voulez
dire que vous avez une idée. Nous avons une idée, comme je l'ai dit, les banques sont toujours à l'écoute de ses clients. Ils sont très proches d'eux, même on est là pour les soutenir. Inch'Allah, tu t'attends à l'asbe, et nous allons revenir comme avant. J'insiste à la chose, Inch'Allah, c'est la volonté de tout le monde. Pour réussir la restructuration du secteur, ça repose sur la volonté et la confiance entre tous les acteurs du secteur. C'est l'essentiel. Si on arrive à instaurer la confiance entre les différents acteurs, on peut s'en sortir, Inch'Allah.
Merci à vous tous. Shukran Lik, si Mohamed Adel Chaben. Merci beaucoup, José Emmanuel, Fraulink, Olivier Petit. أنيس الرويسي شكرا لكم كل راح تكونوا بحضرنا هذه كانت إيكو ماج لكن النهار مازال متواصل مازال نحكيه على القطاع السياحي والتغييرات اللي لازم يعرفها كي يعرف ثورة وثورة نجم تغير حياة برشا ناس وإن كان في القطاع هذا لكن زاد في المحيط به شكرا لكم على المتابعة ميرسي من الغربي في الإعداد وتنسيق علي باشا في الإخراج إذا مدى في الإخراج الرقمي وريم سعيدية كنت معكم من نور الميكرو ملتقانا إن شاء الله غدوة كالعادة إيكو ماج لا سبيسيال
جورني سبيسيال بشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج تونس وجهتنا ودلوات Make an impact that matters الديوان الوطني التونسي للسياحة جورني سبيسيال